Bonjour à tous, parlons-en. 10 minutes sans tabou où l'on peut tout se dire. Elodie Benmadi, thérapeute, je suis ravie comme toujours de partager avec vous cette chronique qui vous est dédiée. Ils sont nombreux, ils envahissent nos salles de consultation. Âge moyenne, de 6 à 15 ans. Humiliation, violence verbale, physique, des bleus, des gifs, des coups, des isolements, des mises à l'écart orchestrées, des attouchements sexuels, des attitudes homophobes et j'en oublie. Le harcèlement non seulement existe toujours au sein des établissements scolaires, mais il s'exerce sous couvert de l'éducation nationale. Un constat accablant. Des échanges, des confessions poignantes avec des professeurs, des infirmières, des CPE totalement dépassés et sans soutien face à cette violence quotidienne qui gangrène nos écoles. Aujourd'hui, parlons-en, fait le point. Ce qui se passe réellement dans les écoles, une réalité qui dérange, où l'omerta règne encore et toujours dans la majorité des cas. Au niveau outils de lutte contre le harcèlement scolaire, où en sommes-nous ? Sur le papier, c'est très joli. Ça s'appelle le programme PHARE. Éduquer, former, intervenir, associer, mobiliser. Encore un domaine où officiellement on remplit de jolies cases, mais où officieusement il serait indélicat de soulever le tapis et voir ce qu'il s'y cache. Le ministre de l'Éducation nationale a créé des cellules dédiées au harcèlement scolaire. Elles sont peu connues. On en parle rapidement lors des réunions de rentrée scolaire. Dans la plupart des établissements, on les nomme « cellules de bien-être ». Déjà là, il y a un gros problème. Pourquoi ne pas nommer les choses ? Parce que les nommer, c'est admettre qu'elles existent. Même appeler un chat, c'en est trop pour l'éducation nationale. Le nommer « prévention harcèlement » serait pourtant le juste titre. Pour rentrer dans le vif du sujet, ces cellules sont composées de la manière suivante. Des CPE, des professeurs et enseignants référents, des psys scolaires lorsque l'établissement a la chance d'en avoir et au miracle une infirmière lorsqu'elle a le temps de se rendre sur site. Ils sont chargés d'écouter les enfants victimes ou témoins de violence au sein de l'école, d'accompagner les élèves, d'enquêter sur les situations, de faire le lien avec les familles, l'équipe pédagogique et d'informer les partenaires extérieurs lorsque la situation le justifie. Il semble logique d'ajouter même, si ce n'est pas précisé, qu'ils ont un rôle d'observation, afin de détecter le plus rapidement possible des situations délicates en marge de violence et d'intimidation. On peut espérer qu'ils mettent en place des campagnes de sensibilisation et d'intervention extérieure, mais pour cela, à leur décharge, il faut évidemment un budget financier à leur disposition, sensibiliser à cela qui, à ce jour, n'est vraiment pas suffisant. Alors ça, c'est sur le papier. En vrai, dans le concret, on a quoi ? Je vais régulièrement sur le terrain. Cette fameuse cellule n'existe que très peu. Lorsqu'elle est en place, les élèves ne comprennent pas vraiment qui fait quoi, à qui se référer et ce que leur parole va déclencher. Les référents me l'avouent, pas vraiment de formation et plutôt sur la base du volontariat, donc très livrés à eux-mêmes. En fait, et cette conclusion n'engage que moi, mise en place d'une cellule harcèlement au sein de l'établissement, paf, coché sur le papier. Du côté de nos enfants, je les reçois de plus en plus nombreux dans mon cabinet. Ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus apeurés avec des répercussions psychologiques de plus en plus graves. Une peur viscérale d'aller en cours. La déscolarisation représente en 2025 une baisse de 121 600 élèves dans les premiers et seconds degrés. J'ai beau chercher longtemps, il est difficile de trouver les chiffres représentatifs des déscolarisations. Tout simplement parce que cela soulève évidemment la réalité d'un problème majeur au sein de l'éducation nationale. Cependant, après une profonde enquête, avant 17 ans, il est estimé un taux de scolarisation à 80,1%, ce qui signifie que 18,9% ne sont pas scolarisés. En miroir de ce que je constate lors des consultations thérapeutiques, j'ai sur un an une augmentation importante de phobies scolaires générées par des harcèlements minimisés, non accompagnés, non gérés par les chefs d'établissement. J'ai des jeunes enfants en souffrance, beaucoup de collégiens. Les migraines chroniques, les vomissements, les maux de ventre, les insomnies. Pour les plus graves, automutilation, scarification, agoraphobie, isolement total, repli sur soi, idées morbides et tentatives de suicide. Pour vous donner une moyenne, par semaine, j'en ai 2 à 3 enfants qui consultent pour cela. Les parents sont eux aussi impactés psychologiquement. Ils se disent abandonnés, n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec le chef d'établissement. les CPE minimisent. L'équipe pédagogique leur conseille de porter plainte. Ils se dégagent ainsi de toute implication, donc répercussions positives aux chiffres statistiques relevés par l'Éducation nationale. Plainte pour harcèlement au sein de l'établissement scolaire, certains parents ont le courage de se rendre au commissariat. Ils me le disent. Dépôt de plainte à 17h, information du classement sans suite dès le lendemain matin à 10h. Alors, faut pas avoir fait une licence de maths pour faire un calcul horaire et se rendre compte qu'aucune enquête ni aucune audition n'a été menée suite à cette plainte. Alors, que faire? Je suis allée demander aux enseignants. Les témoignages, l'envie de parler et de se libérer de ce poids, c'est le sentiment que j'ai eu en écoutant tous les professeurs sur le sujet. Je suis rentrée en contact avec une dizaine. Tous ont accepté de me raconter. Tous, mais à une condition. Garder leur anonymat, me précisant que je pouvais me servir de leurs témoignages, mais qu'il leur était impossible de venir témoigner au micro de peur de représailles pour leur poste. La phrase qui revient le plus souvent, « On a des pressions d'en haut, on nous demande officieusement de tout mettre sous le tapis et de faire le moins de vagues possible. » Certains professionnels d'établissement m'ont confié avoir assisté au bilan pédagogique de celui-ci et de s'être fait recadrer comme quoi cette année, je cite, « il y a eu beaucoup trop de conseils de discipline et d'exclusion concernant les problèmes de violence et de harcèlement à l'école. » J'ai eu en ligne au téléphone les psychologues scolaires qui font ce qu'ils peuvent. Ils sont parfois sur plusieurs établissements et par manque de moyens et de temps ne peuvent pas gérer et être à l'écoute de tous les enfants qui sont en détresse. Je fais le constat d'un manque de formation des conseillers d'éducation face à l'ampleur du fléau et l'augmentation de la puissance des violences. Un manque de surveillance résultant d'un manque de personnel évident. Toutes les équipes pédagogiques sont-elles formées à rédiger un signalement ou une information préoccupante? Je constate que non, que certains à leur décharge ne connaissent pas bien la différence entre les deux. Je communique, j'essaye, comme de nombreux professionnels extérieurs indépendants, de créer un lien, une communication pour apporter le meilleur accompagnement possible aux jeunes victimes. Les entretiens avec les chefs d'établissement sont tous les mêmes, ils sont sur la défensive. Ils me disent « Madame, on ne peut pas recevoir tout le monde ». Bah, c'est bien pour ça que les indépendants existent, monsieur. Et c'est pour travailler ensemble que je vous appelle. Ils s'accordent sur un même point. La violence a augmenté depuis 5 ans et devient difficilement contrôlable. Le gouvernement annonce beaucoup, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Alors je cherche. Pour comprendre, je m'adresse à une cellule coordinatrice sous l'autorité du rectorat. Cette cellule existe sur le territoire national, pour chaque académie. Elle a pour rôle d'assurer l'information et de centraliser les signalements de harcèlement scolaire. C'est avec effroi que je rentre dans une conversation qui prend un tournant totalement inattendu. Je relate les faits, transmets mon inquiétude vis-à-vis des enfants victimes et de la non-action flagrante des professionnels de l'éducation nationale. C'est alors que mon interlocutrice s'intéresse au premier abord à ma démarche, à mes actions de prévention au sein même des établissements. Soudainement, son ton change, je le sens à sa voix. C'est là qu'elle me dit « Mais quand il y a un problème, vous faites vraiment des signalements ?» Soudain, je comprends naïvement un peu tard, car notre échange téléphonique a duré plus d'une heure. Je lui réponds « Évidemment, un silence s'installe. » Elle me propose alors d'intervenir avec le blason d'éducation nationale. Je comprends rapidement qu'il faut passer par une validation de formation spécifique. Je reste à l'écoute, mais prudente. Imaginons, je lui dis que j'interviens, non plus comme psy indépendante, mais comme représentante de l'éducation nationale. Il se passe quoi? Elle m'annonce le protocole. Donc je dois rédiger mes interventions, puis l'envoyer à un référent. Mon intervention est ainsi corrigée. Bah oui, on retourne un peu à l'école quand même. Je comprends entre les lignes que je serai limitée dans mes propos, dans mes informations de prévention et dans mes actions. Lors de mon entretien auprès des classes, elle m'informe qu'il y aura toujours une supervision. Je comprends alors que je serai surveillée. Elle conclut en me disant que mon rapport devra être rédigé et que la rédaction devra être envoyée à mon référent. Que s'il y a signalement ou information préoccupante à rédiger, c'est l'Éducation nationale qui s'en occupera. Eh bien, il ne m'a pas fallu une minute pour comprendre que l'Éducation nationale veut me museler et qu'il me propose la vérification de mes dires et le contrôle des signalements potentiels. Dans un souci de protection pour les enfants, ma réponse est de refuser leur proposition. Je me suis permise avec vigueur de leur expliquer que je continuerai à faire mes interventions de façon indépendante lorsque les établissements feront appel à moi et que oui, je signalerai et je lancerai les informations préoccupantes lorsque la situation est alarmante, contrairement à ce qu'apparemment l'éducation nationale souhaite dissimuler. Je ne vous cache pas que l'échange fut très tendu, qu'au bout d'une heure de conversation, je leur ai dit de rester bien derrière leur bureau, bien planqués à continuer de remplir leurs petites cases et de cocher les petites actions, et que pendant cela, nous particuliers, thérapeutes, psychologues, médecins généralistes et autres, continuerons à dénoncer et à signaler les violences faites aux enfants. Triste constat. Comment ne pas être en colère en tant que mère, en tant que citoyenne, en tant que professionnelle de santé ? Le gouvernement s'affole et souhaite un réarmement démographique de toute urgence. Faudrait-il encore s'occuper des enfants, de les protéger, de les écouter, de les accompagner lorsqu'ils sont déjà présents ? Je souligne la présence positive de nombreuses associations. Pour n'en citer qu'une, mais elles sont nombreuses, je vous cite E-Enfance, association reconnue d'utilité publique que vous pouvez consulter sur le net et joindre par téléphone au 30 18. Cette association est à destination des parents, des enfants en souffrance, mais également aussi des établissements scolaires où ils peuvent effectuer la demande d'une intervention pédagogique sur le harcèlement au sein de leur établissement. Parlons-en, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos témoignages. Je suis là pour vous écouter et vous accompagner si besoin. studiozef.fr. Vous pouvez écouter le replay et envoyer vos réactions sur parlonsen41@gmail.com. Faites confiance à vos enfants. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Posez-leur la question. On ne peut pas empêcher que cela arrive, mais on peut faire une chose, c'est que cela dure le moins longtemps possible. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt.